Hey. Wow, ça sonne, ça sonne. Vous savez, quand j'ai eu tantôt une petite présentation informatique, là, je suis tellement à zéro ou nul. Il y en a qui ne comprennent rien, mais moi, c'est rien, moins que rien. Puis j'ai notre fils Michael qui est en train de prêcher au même moment à grand-mère, qui est programmeur. Je suis donc content. Mon épouse et moi, on l'appelle souvent, puis il est bien découragé souvent. Je vous le vois dans sa face, là, il est bien gentil, mais tu sais, puis souvent, il va dire, « Mais t'as un qu'à lire. » Des fois, il apparaît des cases, oui ou non, OK, mais je n'ose pas peser. Puis, en tout cas, il est bien poli, notre enfant, mais quand même. Il doit dire son papa et sa maman, quand même, est meilleur que moi. Là, mais... Donc, ce matin, heureux d'être avec vous pour conclure, dans le fond, ce qui sert d'introduction à une série sur le sujet que je donne dans plusieurs églises actuellement au Québec sur « Retrouver mon enfant perdu ». Et pourquoi j'ai tellement à cœur, je le répète, de partager, de prêcher ce message-là, c'est tellement d'abord un message auquel je me suis exposé moi-même, qui m'a tellement encouragé, étant donné qu'on vit la même situation que plusieurs d'entre vous, qu'on a 2 enfants sur 4 qui ne suivent pas. Puis je dirais même que si vous êtes jeune ce matin, vous allez dire, bon, mais moi je ne suis pas parent, ça ne me concerne pas. Au contraire, à plus forte raison, si vous êtes jeune, moi, j'ai prêché dans une des églises ce message-là, puis il y a une jeune fille de 16 ans qui était venue me voir après, puis dit, moi, là, je ne veux pas être un enfant prodigue. Et quelques semaines après, elle s'est fait baptiser. T'sais. Alors, c'est un message, quand on touche à la parabole du fils prodigue, d'ailleurs, je vous invite à tourner dans Luc 15, Luc 15 et le verset 11, quand on touche à la parabole du fils prodigue, qu'on soit célibataire, qu'on soit parent, qu'on soit jeune, c'est une parabole qui nous parle. Alors, que le Seigneur dirige ce matin pour... un message particulier à chacun d'entre nous. Évidemment, le but du message, c'est avant tout d'encourager plusieurs d'entre vous qui avez un ou des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. À force de faire le message un petit peu partout, puis à force d'échanger avec des parents qui vivent toutes sortes de situations, c'est incroyable comment c'est un grand besoin d'entendre prêcher là-dessus. Et là, je suis en train de perdre mon piton, je crois qu'il est ici. Retrouver mon enfant perdu, donc, c'est un message qui est pertinent, qui est d'actualité, comme notre frère l'a dit, puis j'espère que ça puisse vous encourager. D'ailleurs, c'est le but de la série, et si un jour vous voulez entendre le reste, je serai toujours disponible pour le faire, mais le but de la série, c'est vraiment de donner espoir aux parents, parce que souvent, lorsqu'on vit des situations avec des enfants qui ne suivent pas, ça nous décourage, pour pas dire que ça nous désespère, t'sais. Alors, le but de la série, c'est de nous encourager, de nous donner de l'espoir. Et pas moi, c'est pas une série psychologique, c'est une série biblique avec les textes des Écritures. Puis aussi, de nous déculpabiliser. Puis ça aussi, c'est les Écritures qui nous déculpabilisent comme parents. Alors que souvent, une mauvaise interprétation de certains textes de la parole de Dieu semble plutôt nous culpabiliser. Ça aussi, on pourra voir ça éventuellement si on revient. Retrouver mon enfant perdu avant de relire... le verset 11 du chapitre 15, ben, il faut remettre dans le contexte aussi que c'est un chapitre assez particulier où Jésus va raconter 3 histoires, 3 paraboles. Dans le chapitre 15, il va parler de la brebis perdue, il va parler de la drachme perdue, puis il va arriver, le point culminant, c'est le fils perdu. Et pourquoi? Parce qu'il est en train de démontrer qu'il est venu sauver ce qui est perdu. Je suis donc content, et ce matin, on a vu un Dieu souverain dans la première heure. C'était le thème, ça, le Dieu souverain. Je suis content qu'on ait un Dieu souverain qui contrôle toutes choses. C'est pas parce que mes enfants ou vos enfants ne suivent pas le Seigneur que le Seigneur a perdu le contrôle de la situation. Dieu est en parfait contrôle de la situation. Ça, c'est tellement rassurant. Puis en plus, la puissance de la prière, c'est un des 6 principes que la série contient, mais la puissance de la prière, c'est essentiel. Moi, je suis convaincu que Dieu peut sauver toute ma famille. Et je pense que vous êtes du même avis aussi. Maintenant, on perd espoir souvent à cause des épreuves qu'on vit à travers ces situations-là, mais que le Seigneur vraiment nous encourage. Et souvent, lorsqu'on tombe dans cette parabole-là, la 3e des paraboles, donc celle du fils perdu au verset 11, qu'on va lire tantôt, rappelons-nous que pourquoi Jésus s'est mis à raconter des histoires. Tu sais, à un moment donné, Jésus ne se levait pas le matin, il dit « Bon, aujourd'hui, je vais raconter une histoire. » Alors, il y avait un contexte. Tu sais... il y avait un contexte, c'était quoi au verset 1 du chapitre 15, vous avez vos Bibles devant vous. « Tous les publicains, les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. » Puis on a le goût d'ajouter « Wesh! » Tu sais, hein? Les religieux Alors, regardez, Jésus mangeait avec les pécheurs, comme si eux autres n'étaient pas pécheurs. C'était épouvantable, ça. Et là, c'est pour ça que là, il va raconter ces trois histoires-là. Hey, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour manger avec eux autres. Je suis venu pour les sauver. Et donc, je veux reprendre quelques principes qu'on a vus la dernière fois, ceux qui n'étaient pas là, puis ceux qui dormaient, puis ceux qui ne s'en souviennent plus. En tout cas, tout le monde, vous allez trouver votre compte. Là. J'entendais ronfler des infos, mais c'est pas grave. Alors, les deux questions que le parent d'enfant inconverti ou d'enfant qui ne suit pas, je pense que je l'avais dit la dernière fois, quelqu'un que souvent on embellit la spiritualité de nos jeunes, puis souvent j'ose avec des parents, je dis, moi, il est sauvé, mais il ne suit pas. Sauvé, mais il ne va pas nulle part. OK, c'est correct. Je ne dis pas qu'il n'est pas sauvé, mais tu sais, il y a un problème. Il y a quelque chose de pas normal. Là. Mais pour ceux qui avons des enfants qui ne suivent pas, souvent les deux questions qui nous viennent à l'esprit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et une fois que je me pose la question que j'ai fait de mal dans le passé, la question intéressante, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Rappelons-nous aussi comme principe que l'enfant prodigue, oui, il brise notre cœur de parents, mais il brise le cœur de Dieu, parce que Dieu, il aime nos enfants. Il aime nos enfants, puis il veut plus que nous autres même qu'ils soient sauvés. Alors ça, c'est bon de se rappeler ça comme principe. Les trois histoires, donc brebis perdues, drachme perdue et fils perdu, ben c'est des histoires qui illustrent comment Dieu nous estime. Mais tu sais, écoutez, quand on lit dans la première parabole, on ne la lit pas ce matin, mais il abandonne les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Ça, c'est-tu qu'on est précieux? Je veux que tu saches ce matin que tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et oui, on appelle cette histoire la parabole du fils prodigue. En passant, je rappelle qu'on ne trouve pas le mot prodigue dans l'histoire. C'est assez intéressant qu'on, depuis des je ne sais pas combien d'années, de siècles, qu'on dit que c'est l'histoire du fils prodigue. Puis il n'y a même pas le mot prodigue là-dedans. C'est quoi le problème? C'est que prodigue, c'est un mot latin qui veut dire gaspilleur. Donc, on comprend plus que là, ça colle bien au fils prodigue. Parce que quelqu'un qui, puis on va le lire dans l'histoire tantôt, quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur, quelqu'un qui ne donne pas sa vie à Dieu, gaspille sa vie. On est dans une société qui essaie de nous faire croire, hey, profite de la vie, vis ta vie. Non, non, tu gaspilles ta vie. Et ça, c'est le sens du mot prodigue. Alors, c'est un bon mot. Donc. Et donc, on connaît cette histoire-là comme étant celle du fils prodigue, mais j'aime bien plutôt l'appeler l'histoire d'un père merveilleux. Et ça, cet aspect-là, on va le voir davantage ce matin que l'autre fois. Donc, j'ai hâte d'arriver à cette partie-là tantôt. L'histoire d'un père merveilleux. Quelle belle histoire. Dans ce texte, on va lire les versets, après ça on va continuer à revoir les principes qu'on a vus. On va lire donc le chapitre 15 de Luc, si vous avez vos Bibles. Luc, chapitre 15, ou vos iPod, iPad, je ne sais plus comment ça s'appelle la patente, mais vous avez de quoi dans les mains en tout cas, là. J'espère. Luc 15, verset 11. Et je le lis dans la version Darby, encore une fois, là, pas parce que je suis un darbiste, mais parce que c'est un texte qui colle plus au grec, donc on a tout de suite plus le sens des mots. Mais toutes les versions sont bonnes, sauf celle des témoins de Jéhovah, je le répète. Luc 15, verset 11. « Et il dit, c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. » En passant, on aurait pu appeler ça la parabole des deux fils prodigues. Parce que celui qui est resté à la maison, si on lit le texte au complet, là, son cœur n'était pas plus à la maison que l'autre. C'est deux fils prodigues, ça. Comme quoi, nos jeunes peuvent peut-être venir à l'église, se dire chrétiens, mais dans le fond, dans leur vie quotidienne, ils ne suivent pas plus le Seigneur qu'un païen, là. Faisons attention. Ça ne veut pas dire que quand on vient à l'Église qu'on est chrétien, mais un chrétien devrait venir à l'Église. Ça, c'est la logique de la chose. Luc 15, verset 11, il dit donc, Jésus, un homme avait deux fils. Le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14, « Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, il commença d'être dans le besoin. » Verset 15, « Il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient. Personne ne lui donnait rien. » Et verset 17, votre version va sûrement dire « étant rentré en lui-même », j'aime bien la version plus littérale, « étant revenu à lui-même », tu sais, ça ressaisit le gars un peu, là. « Étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi je péris ici de faim. » Je me lèverai, je m'en irai vers mon père, je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père. On s'est arrêté là la dernière fois. Et qu'est-ce qu'on avait vu à travers ces versets-là? Donc, on a vu que le père a permis à son fils adulte de prendre ses propres décisions. Et ça, c'est important comme principe. Est-ce que nos décisions... Et puis, en passant, on voit que le fils va demander l'héritage à son père. On se rappelle que le père avait tous les droits de ne pas lui donner. Mais le père a décidé de lui donner parce que le père a permis à son fils adulte de prendre ses propres décisions. Et encore là, ça c'est important comme parents chrétiens qui élevons pour la plupart d'entre nous nos jeunes dans la vie chrétienne, dans le foyer chrétien, dans l'église chrétienne. À un moment donné, nos jeunes commencent à pogner 16, 17, 18, ils deviennent des adultes. Et il faut qu'ils prennent leurs décisions. On souhaite qu'ils prennent une décision qui est la meilleure, celle de vivre pour Christ, de donner leur vie à Christ. Mais c'est le même cas avec n'importe quel pécheur. On n'a pas à tordre le bras à personne. On ne peut pas le tordre. C'est Dieu qui tord le cœur. Nous autres, on ne peut pas tordre les bras. Alors, il faut laisser nos jeunes adultes prendre leurs décisions. Et c'est merveilleux quand ils prennent la décision pour Christ. Là où ça devient triste, c'est lorsqu'ils décident de ne pas suivre Christ. Lorsqu'ils décident de nous annoncer, moi, je ne veux plus rien savoir. Lorsqu'ils décident de dire, mais moi, je veux vivre ma vie. Tu sais, quelle mauvaise phrase à dire, quelle séduction du diable. Hein? Vivre sa vie, c'est la gaspiller, comme je l'ai dit. Mais le principe qu'on voit dans cette histoire-là, on l'a vu l'autre fois, le père a permis à son fils adulte de prendre ses propres décisions. Dans l'esprit des enfants prodigues, la meilleure place à être, c'est loin de toute autorité morale qu'ils n'aiment pas. On le voit dans cette histoire-là, hein? Aussitôt qu'elle cache, le texte nous dit peu de jours après. Je veux dire, avait-tu hâte de s'en aller, le jeune? Il avait hâte de s'en aller. Ça n'a pas niaisé. Là. Il voulait s'en aller. Et nos enfants qui ne suivent pas le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent être à la maison encore. Mais, tu sais, le cœur n'est pas là, le cœur n'est plus là. Puis s'il y avait l'occasion, bien souvent, ils en iraient. Mais des fois, ils n'ont pas les moyens. Des fois, ils s'en vont, ils n'ont plus les moyens, ils reviennent. Là, on s'entend. On peut se partager des choses après, mais quand même, dans l'esprit des enfants prodigues, la meilleure place à être, c'est loin de toute autorité morale qu'ils n'aiment pas. Et la séparation émotionnelle et spirituelle, ça crée un faux sentiment de bonheur. C'est sûr que là, les jeunes disent, « Bon, moi, là, je me sépare de papa, maman, je ne vais plus à l'église, je vais vivre ma vie. » Puis là, tout à coup, il y a un faux sentiment de bonheur. Là, je suis bien, là, je suis libre. Un de mes enfants qui ne suit pas le Seigneur aujourd'hui, même quand il était jeune, disait, « Je me sens étouffé, je ne peux pas faire ce que les autres font. » C'est des affaires qu'on entend. Mais la séparation émotionnelle et spirituelle crée un faux sentiment de bonheur. L'enfant prodigue a vite découvert que toutes décisions bonnes et mauvaises ont des conséquences. Ah oui, c'est sûr que tu es libre de tes choix, mais tu n'es pas libre des conséquences de tes choix. Donc, l'enfant prodigue prend le cash, s'en va vivre loin, dans un pays très éloigné. C'est assez loin, ça. Mais il y a des conséquences à ça. Puis là, il gaspille ça, dans la débauche. En 2017, on dirait ça des parties. On est-tu dans une société de parties? Puis, le gars est badlocké, comme on dit. Le pays dans lequel il s'en va, c'est un pays qui rentre en grande famine. Bon, ça veut dire, là, il n'y a plus une scène, puis là, il n'y a plus rien à manger. Alors, il découvre, puis nos enfants qui ne suivent pas le Seigneur découvrent qu'il y a des conséquences à leur choix. Ah, c'est sûr, tu veux vivre ta vie, mais des conséquences à ça. Ça ne tourne pas toujours mal sur le coup, mais tôt ou tard, ça vient en famine l'affaire. Là, tôt ou tard, les épreuves de la vie rentrent. Puis tôt ou tard, on voit que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, là, je trouve ça assez extraordinaire, les gens qui vivent cette vie dans un monde de fous comme le nôtre, sans Dieu, je ne sais pas comment ils font. Là. On est-tu bien d'avoir un Dieu? Premièrement, d'avoir Dieu dans nos vies, puis d'avoir un Dieu souverain, comme on dit, puis un Dieu d'amour, puis un Dieu qui contrôle tout. Mais notre enfant prodigue découvre vite que toute décision, bonne ou mauvaise, a des conséquences. Et chaque enfant prodigue atteint un point où son plaisir tourne en famine. Tôt ou tard, le party va finir, tu sais. Tôt ou tard, le party va finir. Dieu, dans sa sagesse, a conçu les conséquences du péché pour nous rendre désespérés. Dieu a voulu ça, a fait ça comme ça. Dieu a fait que les conséquences du péché nous rendent désespérés. C'est ça qui est arrivé avec l'enfant prodigue. Hein? À un moment donné, il vient désespéré. Là. Il rentre en lui-même, puis là, oups. Alors, c'est ça que ça fait les conséquences du péché. À un moment donné, c'est ça qui nous amène à, à réaliser que, oups, il se passe, il y a un problème. C'est pas ça la vie. Là. C'est ça qui nous fait qu'on se réveille. Et le père sage, on l'a vu dans l'histoire, le père sage savait que le brisement était le seul remède à l'orgueil de son fils. Parce que, heureusement, dans l'histoire, on voit le fils qui brise à un moment donné, qui rentre en lui-même, revient à lui, se ressaisit, rentre en lui-même. Puis là, il réalise, regarde là, j'ai les deux pieds dans la vase pour être poli. J'ai plus rien. Puis j'étais-tu bien avec mon père? J'avais tout. C'est quoi je viens de faire là? Alors, il commence à raisonner. On est dans une société, puis en passant, on est dans une société qui nous étourdit tellement, qui nous divertit tellement qu'on ne veut plus réfléchir là-dessus. Mais là, le fils, là, il commence à réfléchir, regarde, où je suis rendu, ça n'a pas de bon sens. Combien de serviteurs, de mercenaires chez mon père, eux autres sont bien traités, puis moi, je n'ai même plus rien à manger ici, puis moi, je suis son fils. Alors, il commence à rentrer en lui-même. Ça s'appelle le brisement, ça, puis il n'y a pas... Un sauveur, il n'y a pas un pécheur qui va être sauvé sans brisement. Ça passe par le brisement. Et que ce soit nos jeunes, mais que ce soit n'importe quel pécheur. Qui que vous soyez dans la salle ce matin, j'espère que qui que vous soyez dans la salle ce matin, vous avez passé par le brisement. Que vous avez reconnu que vous êtes pécheur. Et que vous avez reconnu qu'il y a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ qui est mort à votre place. Mais ça passe par le brisement. Et c'est ça la plus grande lutte pour tout parent d'enfants prodigues, c'est d'attendre que ce fameux brisement arrive. On a-tu hâte hein, que nos enfants se raisonnent enfin? Puis quand je dis nos enfants, ils peuvent être âgés de 16-18 ans, mais peut-être de 30-40 ans, tu sais, plus que ça encore. Nos enfants seront toujours nos enfants. Hein? Comme le dit le vieux dicton, parents un jour, parents... Oh, parents se courent aussi, ça aurait été bon. Non, mais... Donc, parents toujours, c'est exactement ça. Mes parents secours, c'est pas mal là aussi, ça aussi. Mais donc, on est parents, puis quel que soit l'âge de nos enfants, puis ça nous attriste de voir nos jeunes. Puis on a-tu hâte qu'ils brisent? Mais je peux pas provoquer le brisement, tu sais. Comme je le disais, je peux pas y tordre le bras. Et d'ailleurs, il faut faire attention, à un moment donné, surtout ceux qui ont été élevés dans les familles chrétiennes, qui veulent pas suivre le Seigneur, sont rendus adultes, ils savent le message, ils connaissent le message. Puis l'auteur du livre Reaching the Prodigals, sur lequel je base la série, avec les différentes entrevues qu'il a faites avec les jeunes qui sont revenus au Seigneur ou qui ne sont pas revenus au Seigneur, qui sont venus au Seigneur ou pas venus au Seigneur, qui étaient nés dans des familles chrétiennes. Mais ceux qui sont venus ou revenus au Seigneur, 99%, c'était plus par les parents, c'était par des contacts chrétiens sur lesquels ils sont tombés à un moment donné. Tu sais. Et d'ailleurs, un des principes de la série, je le disais, c'est la prière. Puis une des choses à prier, c'est « Seigneur, mets des chrétiens sur le chemin de mon enfant. Que notre enfant soit en Australie, que notre enfant soit de l'autre côté de la rue, que notre enfant soit encore chez nous, que le Seigneur puisse mettre des contacts dans leur milieu de travail, à l'école, dans leur voyage, quoi que ce soit. Puis le Seigneur est souverain. Moi, c'est ça que je rappelle ce matin. Dieu souverain contrôle tous les éléments. Puis si Dieu veut mettre... telle personne sur le chemin de mon enfant, un chrétien, il va le faire. C'est ma prière, en tout cas. Donc, on était rendu là dans notre étude, puis il y a ce brisement-là qui s'installe dans la vie du fils prodigue. C'est un moment difficile pour nos enfants prodigues, pour tout pécheur de reconnaître, parce que pourquoi c'est dur de reconnaître qu'on est pécheur? Pourquoi c'est dur de briser si on est orgueilleux? On est orgueilleux, puis... L'orgueil, c'est le péché d'Adam et Ève, tu sais, être indépendant de Dieu. C'est encore le péché de l'homme, de la femme. On veut être indépendant de Dieu. Alors que Dieu est souverain, Dieu est notre créateur, on ne veut pas vivre pour lui. Puis ça prend de l'humilité pour venir à Christ. Alors c'est un moment difficile. Maintenant, mettons-nous dans la place de ce fils-là qui décide... de se lever, puis en passant, c'est beau dire « je vais me lever », mais il faut se lever. Hein, tu sais. C'est beau dire « un jour, je vais donner ma vie au Seigneur », mais il faut le faire, parce que qui sait si tu seras là demain. C'est pour ça que c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors, le fils dit « je me lève, je vais me lever », il se lève au verset 20. Puis là, mettons-nous dans sa peau, là, il a tout gaspillé l'argent à son père, il a fait honte au bout. Puis dans le contexte, on se rappelle que nourrir des pourceaux, c'était la pire honte pour un père juif. pire quand même, quasiment que les immoralités ou tout dérèglement moral. C'était quasiment pire. C'était honteux pour un père juif de savoir que son fils nourrissait des cochons. Et là, lui, il se demande, qu'est-ce que mon père va dire? Je lui ai fait honte, j'ai tout gaspillé. Puis comment la famille va réagir? Puis j'ai peut-être pas 10 chances pour me faire racheter ou me racheter, entre guillemets, là, de faire bonne impression pour mon comeback. Alors, mettons-nous dans la peau de ce jeune-là qui devait se poser toutes sortes de questions. Comment mon père va réagir? Puis on le voit dans l'histoire que Jésus raconte, on voit que le fils va répéter. Il va répéter ce qu'il veut dire au père. Hein? Regardez, quand il dit au verset 18, « Je me lèverai, je m'en irai vers mon père. » Puis là, il commence à répéter son discours. Je vais lui dire ça. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ou tes mercenaires. » Alors, il a même répété ce qu'il va dire. Alors là, il est nerveux. Hein? Tu sais, j'ai tout gaspillé. J'ai fait honte à mon père. Mais là, je vais retourner à la maison. Je vais lui demander pardon. Je veux qu'il m'accepte. Hey, nous autres ici, on a-tu besoin de pardon? Hein? C'est le plus grand besoin de l'être humain pécheur, le pardon. D'être pardonné de Dieu. Gloire à Dieu, il l'accorde, ce pardon-là, sur la base du sacrifice de son fils. Le sang a été versé. Hein? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, mais le sang a été versé. Alors, il répète ce discours-là. Il décide de se lever. Et c'est là qu'on lit au début du verset 20, « Il se lève, il s'en va vers son père. » Maintenant, comment le père va l'accueillir? Puis vous savez, le retour est pas moins... Tu sais, quand il est parti de la maison, là, il était sur un high, lui-là, là, il a de l'argent dans les poches, puis il va vivre sa vie. Ouh, c'est merveilleux! Mais il revient stupideux pas à peu près. Là. C'est moins high, là, tu sais. Là. Et là arrive la belle histoire, la belle rencontre. Verset 20, on continue à lire. « Se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin. » Ça, j'aime ça, cette phrase-là, soulignez-la. Nos enfants sont loin, là. Tes enfants sont peut-être loin ce matin. Et ce texte-là me fait penser que le père... Tu sais, on l'a dit l'autre fois, le père, quand il a vu partir son enfant, puis nous autres, quand on voit nos enfants décider de poursuivre le Seigneur, ça nous brise le cœur le jour 1. Et peut-être ce matin, ça fait 5, 10, 15 ans, peut-être 2, 3 semaines, je ne sais pas, que votre enfant ne suit pas le Seigneur, a décidé de ne pas suivre le Seigneur. Mais je suis convaincu que ça fait autant mal aujourd'hui que le premier jour. Et le père, quand il a vu partir son fils avec tout son héritage, puis le message était assez clair, quasiment, j'aime mieux que tu meurs quasiment que d'être avec toi, c'était ça, hein? Je demande ton héritage. Mais ce père-là, là, j'aime l'imaginer régulièrement regarder à travers la fenêtre et dire, il va-tu revenir? Il fallait qu'il y ait ce réflexe-là pour qu'on lise ce verset-là. Et comme il était encore loin, son père l'a vu. Tu sais, puis rappelons-nous, le but de la parabole, c'est que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est en train toujours de regarder à te sauver, à nous sauver. Il attend qu'on aille vers lui. Parce que le père, dans l'histoire, on s'entend-tu qu'il l'a laissé prendre sa décision. Il est parti jeune. Lui, il est resté à la maison. Il l'a pas retenu. Il n'a pas couru après. Mais quand il revient, on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Là, il court vers son fils. Regardez le texte. « Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. » Wow! Il y a vraiment le terme entraille de compassion. Tu sais, il y a quelque chose dans les tripes. Puis nos, comme parents, là, si on a des enfants, évidemment, si on est parents, on a des enfants, c'est assez logique. Grande déclaration philosophique. Mais tu sais, on les aime, nos enfants. Puis même, ils font les pires coups. On est déçus, oui. Puis en passant, le père n'a jamais approuvé la décision de son fils de s'en aller, mais on les aime. Tu sais, ça vient nous chercher dans nos entrailles. Puis là, on voit le père qui voit son fils revenir. Il a dit. Puis là, en passant, il l'a vu de loin. Puis souvent, tu sais, j'aime imaginer qu'il l'a peut-être reconnu même par sa démarche. Tu sais, nos jeunes ont des démarches. Hein, tu sais. On est capable de reconnaître nos jeunes par leur démarche. Puis il l'a vu de loin. Puis là, ça l'a venu chercher. Wow, tu sais, ça faisait combien de temps qu'il attendait? Le texte ne dit pas. Mais je sais combien de temps. Tant que j'attends mes enfants, mes deux enfants qui ne suivent pas. Vous savez, vous, comment ça fait d'années que vous attendez vos enfants aussi. Puis là, il est ému de compassion, puis le texte nous dit qu'il court à lui. Wow! Wow! Ça, c'est pas attendre quelqu'un avec une brique mafanale. Là, tu sais. Non, il court à lui. Mieux que ça, il se jette à son cou. Wow! Je présume qu'il ne devait pas sentir très bon. Il arrivait de nourrir des cochons. Il n'avait plus une scène pour prendre soin de lui. Il devait pas mal avoir le même linge. Mais on les aime tellement, nos enfants, là, quelles que soient les choses qu'ils ont faites. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de mauvais coup qui nous empêche de les prendre dans nos bras. Puis le texte de poursuivre en disant, il le couvrit de baisers, c'est pas que... Non. Il le couvrit de baisers. Hey, c'est sûr. Ce fils-là, qui l'avait tant humilié, qui l'avait tant attristé, il revient à la maison. Plus une scène. En guenille, sale. Wow. Mais le père se pitche vers lui, prend dans ses bras et le couvre de baisers. Puis là, le fils, c'est intéressant, regardez le texte. Le fils, au verset 21, lui, il avait préparé un texte. Là. Il avait préparé un discours, puis là, il s'est mis à commencer à le dire, « Père, j'ai péché contre le ciel devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais même pas le temps de finir, lui, il était supposé dire, après ça, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Je ne sais pas si j'ai un Kleenex dans la salle. Y a-t-il un médecin, moi, un Kleenex? Je suis en train de défaillir. C'est un test, vous avez un bon service de Kleenex. Ta! Jean-Guy, ça, c'est mon compagnon d'informatique, je pense. Hein? Merci. Il est propre en plus, OK. Ça, c'est parfait. Ça, c'est merci. On va le tester, c'est correct. Ouais. Tout ça, en enregistrement, vous ne verrez pas la scène. Et là, donc, il ne finit pas sa phrase. Il n'arrive pas à dire « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Savez-vous pourquoi il ne finit pas sa phrase? Parce que le texte nous dit que son père est en train de l'embrasser. Mais lui, il commence à dire, mais non, regarde, t'es pardonné. Tu sais, ça voulait dire quoi, cette embrassade-là? T'es pardonné, mon fils. Il n'y a plus de problème. T'as même pas besoin de finir la phrase. C'est pas extraordinaire, ça. Mieux que ça, non seulement il ne laisse pas son fils de finir sa phrase, mais tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Mais le père dit à ses esclaves, puis là, on s'entend-tu que là, remettons-nous dans la scène, il s'en va vers son fils, donc on peut présumer qu'il y a des serviteurs qui ont suivi le père. Parce que là, il se tourne tout de suite, il dit à ses serviteurs, allez chercher quoi? Apportez dehors la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez un anneau à sa main, des sandales à ses pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, faisons bonne chair. Pourquoi? Parce que mon fils, que voici. Il n'avait pas honte, hein? C'est mon fils. Il était mort. Mais il est revenu à la vie. Il était quoi? Perdu. Wow. Il est retrouvé. Écoutez, cette réunion-là décrite par Jésus, comment ça devait être émouvant d'entendre ça de la bouche de Jésus, cette histoire-là? Parce que lui, il était la manifestation du Père venu nous chercher. Mais la réunion décrite par Jésus, c'est le désir de toute personne qui a un enfant prodigue. Moi, je pense que je veux un jour vivre ça avec mes deux enfants qui ne suivent pas. Qu'il y ait un jour qui brise puis qui revienne. Qui vienne au Seigneur. Vous savez, j'aime cette phrase que j'ai mise à l'écran. Pour les enfants prodigues, ils viennent avec l'espoir de la grâce. Pour les membres de la famille, ils viennent avec la grâce de l'espoir. Mais l'amour motive les deux. On va réfléchir sur cette phrase-là. Les enfants prodigues, ils viennent avec l'espoir de la grâce. Mettons-nous dans le contexte du jeune fils qui veut retourner à la maison. Il va avec l'espoir de la grâce. Il espère être gracié par son père. Puis nous autres, les parents, la famille, bien, on vit avec la grâce de l'espoir. On espère que nos enfants soient sauvés. On espère qu'ils se tournent au Seigneur avant qu'il soit trop tard. Tu sais, puis je vois de la jeunesse dans la salle, puis il ne faut pas attendre avant de venir au Seigneur. faut pas attendre avant de venir au Seigneur. C'est intéressant, lorsqu'on lit le texte dans Luc 15, verset 11 et jusqu'à ce verset 24-25, c'est intéressant parce que les premiers versets, c'est les actions du fils prodigue qui sont importantes, mais lorsqu'on tombe dans la deuxième partie du texte qu'on a lu, c'est les réactions du père qui sont en vedette. Les actions du fils au début de l'histoire, mais la réaction du père. Et dans cette histoire, le père donc a restauré la dignité du fils repentant. C'est intéressant, il ne l'a pas seulement... Tu sais, puis on sent, là, mettons-nous là, dans la place, puis dans la peau du père, là, y aurait-tu peut-être eu tentation de dire, quand il a vu son fils au loin revenir, avec sa démarche, il aurait pu se croiser les bras dans la maison, puis dire, « Tiens, tiens, mon vaurien qui s'en vient. Mon grand fanal, une expression. » Mais tu sais, il aurait pu se croiser les bras, puis l'attendre dans la maison, puis... Tu sais, puis pas bouger, puis dire, regarde, j'ai quelque chose à dire. Tu sais, des fois, on aime ça faire des sermons. En passant, un des six principes dans la série, c'est de faire attention à notre langue. Tu sais, comment qu'on parle à nos enfants prodigues. Tu sais, déjà, on est capable d'irriter. D'ailleurs, c'est une des rares exhortations aux parents, puis aux pères, mais aux parents, dans la parole de Dieu, n'irritez pas vos enfants. On est capable pas mal encore de les irriter hein, par nos petits sermons. Et ça ne veut pas dire de plus leur parler de la Bible. Le Seigneur dirige dans sa sagesse, mais entre autres, une des principes dans la série, c'est faisons attention avec notre langue et comment on interagit avec nos enfants prodigues. Mais il aurait eu tous les droits, entre guillemets, de se croiser les bras et d'attendre dans la maison. Non, c'est pas ça qu'il fait. Non seulement il va vers lui, mais en plus, qu'est-ce qu'on apprend? Il lui donne une robe, un anneau, des sandales. Pourquoi la plus belle robe? Parce que c'était la robe pour l'invité d'honneur. La plus belle robe était toujours réservée à l'invité d'honneur. Hey, il est en train de dire, mon fils, viens-tu le remonter dans son estime? Là, tu sais? Hey, donnez-lui la plus belle robe. Mieux que ça, il lui donne un anneau qui signifiait sa position en tant que fils. Hey, t'es mon fils. Puis les sandales voulaient dire qu'il n'était pas un esclave parce que traditionnellement, l'esclave n'avait pas de chaussures. Alors, il est en train de restaurer complètement son fils avec une robe la plus belle, un anneau, des sandales. C'est en train de dire, t'es mon fils, t'auras toujours été mon fils. Nos enfants sont toujours nos enfants. Et là, le meilleur de tout, c'est qu'une célébration a eu lieu. Hein? On tue le veau gras, puis ça commence. Ils se mirent à faire bonne chère, C'est quelque chose qui a commencé. En passant, notre célébration comme chrétien ne terminera jamais. Une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Puis ce qui nous attend, c'est les noces de l'agneau. Ce qui nous attend, c'est la félicité céleste. Si on veut prendre un langage humain, notre party a commencé, nous autres. Là. Une fois qu'on est chrétien. Le vrai party, dans le sens que la vraie joie, c'est en Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire-là. Et comme je le disais, le père aurait pu demander des réponses, faire la liste des façons par lesquelles son fils avait amené la honte à la famille. Tu sais, on est d'info, on est bon pour en noter. Tu sais, je te l'avais dit. Tu sais, souvent, on a le temps. On a-tu le goût de dire ça? Hein? Je te l'avais dit, on savait. Non, il n'y a pas d'ornotage dans la patente, il n'y a pas dans l'histoire. On n'est pas un dieu d'ornoteux. C'est pas un dieu ornoteux, là, si on prend l'expression. C'est pas un dieu de reproche. C'est un dieu qui aime, c'est un dieu qui est patient. D'ailleurs, Dieu permet qu'on vive ces situations-là avec nos enfants inconvertis ou des enfants qui ne suivent pas parce qu'on a besoin d'être transformé à l'image de Christ. Puis Dieu se sert de ça, entre autres, de tout ce qu'on vit dans nos vies pour nous rendre semblables à lui. Parce que lui est comme ça. C'est un Dieu qui ne remonte pas. C'est un Dieu qui accueille. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui aime. Alors, le Père a utilisé la sagesse quand son fils est parti, mais maintenant, il l'exerce quand il revient. C'est intéressant, ça, hein? Le père a exercé de la sagesse pour le laisser partir. Il aurait pu chicaner avec longtemps, puis dire non, tu ne pars pas d'ici, puis tu n'auras pas ton héritage, puis tu es bien effronté, puis patatatat. Le père a usé de sagesse. Tu prends tes décisions, tu es rendu adulte. Ça me fait mal, je ne suis pas d'accord. Mais il utilise la même sagesse quand il revient, en ouvrant ses bras. Il n'a pas provoqué un brisement chez lui, il a laissé vivre son brisement. En passant, on n'a pas le temps de lire le reste de l'histoire. Le fils aîné dans l'histoire a échoué à comprendre l'attention que son père donnait à son frère. Puis on sait que dans l'histoire, le frère aîné est choqué que là, son jeune frère, puis même il va dire à son père, ton fils, il l'appelle même plus son frère, il dit ton fils, là. Ça vaut rien en bon québécois, là. Lui, là, il a tout gaspillé tes affaires, puis tu lui fais un party, tu lui fais une fête. Puis moi, je suis fidèle ici depuis des années, puis j'ai jamais eu de grandes célébrations. En passant, le fils aîné représente les pharisiens de l'histoire, tu sais. Parce que, rappelons-nous, l'histoire est dans le contexte. Les pharisiens qui jugeaient Jésus d'aimer les pécheurs. Alors, le fils aîné représente les pharisiens qui se croient justes, qui se pensent corrects. Alors, la célébration a commencé, le processus de guérison dans le cas du fils prodigue. Puis c'est le début de l'histoire, tu sais. C'est sûr que le fils prodigue revient à la maison, il est réconcilié avec son père, il est restauré, mais c'est le début de l'histoire, là, tu sais. Tu sais, la conversion, là, c'est le début d'une histoire. C'est pas la fin, donc il faut être patient. Peut-être nos enfants ont vraiment connu le Seigneur, peut-être qu'ils sont vraiment sauvés, ils sont dans un détour dans leur vie, puis ils reviennent au Seigneur. Tu sais, on n'est pas là pour juger les cœurs ce matin, mais ma question, c'est qu'est-ce que ton enfant suit le Seigneur aujourd'hui? Puis on souhaite qu'il vienne ou qu'il revienne au Seigneur. Mais c'est le début. La restauration, c'est le début. Il y aura d'autres luttes, il y aura d'autres déceptions, il y aura d'autres, tu sais. La sagesse que Dieu nous demande d'avoir quand il revient ou il vient à lui, il faut la garder après. Pas scraper les choses. Et donc, l'histoire que Jésus raconte illustre à quel point le comportement pécheur affecte plus que les parents aussi. Ça affecte toute la famille souvent. Et une dernière pensée, peut-être avant de conclure. Dieu t'estime, toi et ton enfant prodigue. Il désire un changement dans le cœur de ton enfant prodigue autant que toi, puis même plus que toi, plus que moi. Dieu estime nos enfants. Je vais prendre 2 minutes pour terminer. Il y a quelque chose que je méditais là-dessus dernièrement. Saviez-vous qu'il y avait un troisième fils dans l'histoire? En as-tu conduit à remarquer ça? Il y a un troisième fils dans l'histoire. C'est ce que vous saurez la prochaine fois. Non, mais... Il y a un troisième fils dans l'histoire. Regardez le verset 11. Et il dit, Jésus, c'est un fils aussi. Jésus aussi a quitté la maison du Père un jour. Hey, comme le fils prodigue. Jésus a quitté la maison de son Père un jour. Mais pas par désobéissance, mais par obéissance. Quel contraste, hein? Jésus a quitté un jour la maison de son Père, puis il n'est pas venu pour vivre une vie de débauche, mais une vie de sainteté. Mais il était loin, là. On l'a vu ce matin, hein? Dieu de l'univers, Dieu de création, mais le Fils a quitté la maison. Jésus quitta le trône de son Père, des bons vieux cantiques, là, et descendit ici-bas sur la terre, il accepta la crèche pour berceau. Lui, le roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh, oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. On va chanter si ça continue. Mais Jésus quitta le trône de son Père. Lui aussi, c'est un enfant prodigue dans un sens où il a quitté la maison du Père, mais par obéissance, avec une vie de sainteté. Puis lui, ce qu'il attendait, c'était pas un anneau, c'était pas des sandales, mais c'était des clous. Quel contraste! Quel contraste! Pour que moi, l'enfant prodigue, que nous sommes tous en passant, que je puisse un jour lui appartenir, puis pouvoir prier Dieu à mon tour, puis dire « Abba, Père, on va prier. » Seigneur Jésus, merci pour ce matin de nous avoir réunis sous ton regard. Merci pour ce texte qui est tellement touchant, tellement émouvant. Puis, Père, tu connais les besoins de chacun ici ce matin. Je veux prier d'abord pour tous ceux qui ne t'appartiennent pas. Célibataires, mariés, jeunes, moins jeunes. Seigneur, je te prie que tu touches le cœur de quiconque ici refuse encore de te céder sa vie. Et que personne ici ne tombe dans l'illusion qu'on peut vivre sa vie sur cette terre puis être heureux. Nous, on gaspille notre vie sans toi, Seigneur. Mais tu nous as tellement aimé que tu as envoyé ton Fils unique, que lui a quitté la maison du Père, pour venir vivre ici-bas sur la terre et mourir à notre place. Et que quiconque ici ne dorme pas ce soir sans avoir fait ce pas de foi et d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ, d'avoir reconnu qu'il est pécheur, et que par la foi et la repentance, par une simple prière, demander pardon, te demander pardon et accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Mais je prie aussi pour les parents, spécifiquement les parents qui ont des enfants qui ne suivent pas présentement. Combien c'est attristant, combien on est découragé souvent. Mais Père, on s'en remet à ta puissance, on s'en remet à ta volonté de les sauver. Et qu'entre-temps, tu nous donnes la sagesse d'agir avec eux, avec amour, avec patience, en contrôlant notre langue aussi, nos réactions. Et Père, on a besoin de ça, on a besoin de toi pour nous transformer à ton image, parce que tu es un Père comme ça, un Père qui renote pas, un Père qui est patient, un Père qui nous aime. Et fais-nous du bien, Seigneur, avec ce qu'on a entendu ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen.